Vous écoutez On lit pour vous.
Afro-Francophonie Canada voit le jour à Toronto. Un texte de Jimmy Mavuba paru le 8 juillet 2025 dans l'Express.ca. C'est le samedi 5 juillet à Etobicoke que l'Association Afro-Francophonie Canada a officiellement lancé ses activités devant une vingtaine de personnes. L'organisme sans but lucratif vise à promouvoir, valoriser et soutenir les communautés afro-descendantes francophones de tout le Canada. C'est un appel à tous les afro-descendants que lancent les dirigeants de cette organisation sans but lucratif. Le président fondateur Joseph Boule compte, avec cette structure, être un guide pour les immigrants africains et haïtiens. Les nouveaux arrivants, ainsi que tous les autres afro-descendants du Canada, sont les bienvenus pour demander des services qu'offre l'organisme, notamment pour faciliter leur installation et leur insertion dans la société canadienne où beaucoup se perdent sans encadrement. Nous sommes là pour bâtir une société inclusive où les afro-francophones se sentent valorisés et deviennent des acteurs de changement. Un service de mentorat. Pour conduire le public cible vers son autonomisation, Afro-Francophonie Canada met en place un système de mentorat régulier et gratuit pour tous. Ces coachings portent sur des enjeux comme l'intégration, les pressions identitaires, l'isolement culturel, la gestion du coût de la vie. Nous avons déjà commencé à offrir des ateliers sur les thèmes suivants, sur le leadership, les avantages du bilinguisme anglais et français, et la construction identitaire. Nous en projetons d'autres. Ce programme que nous organisons avec nos moyens de bord, sans attendre un quelconque financement, est ouvert pour les jeunes, les vieux, bref, toute génération, et ceci sans discrimination. Les Congolais embarquent. Afro-Francophonie Canada compte en l'appui de partenaires pour matérialiser ses visions. Son appel trouve déjà un écho favorable auprès de l'Association des Congolais du Canada, qui promet son accompagnement. Tout ce qui est appui communautaire, nous ne pouvons que soutenir, indique le président Patrick Mpiana. C'est le cas de cette belle initiative. Notre personnel viendra faire du bénévolat pour appuyer les prochaines initiatives d'Afro-Francophonie Canada. Joseph Boule est lui aussi d'origine congolaise. Établi au Canada depuis une dizaine d'années, il travaille en relations publiques. D'autres membres du conseil d'administration sont camerounais, ivoiriens, mauriciens. Finances personnelles. On souligne que les questions de finances personnelles et de codes de crédit sont souvent source de certaines confusions dans les ménages afro-descendants. Yim Jo Sorel, conseillère en finances, travaillera avec l'association pour sensibiliser et informer ses membres. Le manque d'informations nécessaires détruit beaucoup de gens qui se retrouvent face à un défi insurmontable. Voilà pourquoi nous pensons utile de sensibiliser à ce sujet, surtout les jeunes. Bien que le lancement officiel de l'organisation a eu lieu le 5 juillet, sa prise en charge de personnes noires en Ontario a débuté il y a déjà quelques mois avec des ateliers de sensibilisation ayant réuni plus de 40 participants autour du thème de l'engagement communautaire. La prochaine opération de sensibilisation portera sur la gestion des finances et la vie de couple harmonieuse. C'était Afro-Francophonie Canada voit le jour à Toronto. Un texte de Jimmy Mavuba, paru le 8 juillet 2025 dans l'Express.ca.
Chauffer sa piscine sans réchauffer la planète. Un texte de Valérie Simard, paru le 4 juillet 2025 dans La Presse. Alors qu'à Dubaï, les hôtels ajoutent des blocs de glace dans leurs piscines pour les rafraîchir. Au Québec, la tendance est plutôt à l'inverse. On chauffe son bassin, souvent pour étirer une saison de baignade déjà courte. Un choix qui augmente, certes, le temps d'utilisation de la piscine, mais qui s'avère énergivore et coûteux. comment faire une saucette de façon agréable et éco-responsable? Quand on pense à la consommation d'électricité estivale, on songe spontanément aux climatiseurs qui ronronnent les jours de canicule. Pourtant, posséder une piscine est beaucoup plus énergivore. Sur une base annuelle, la climatisation, c'est 5% de la consommation d'un ménage québécois. Note Sandrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec. La piscine, environ le tiers de la facture annuelle. En été, cette proportion peut monter à 70%. Selon le calculateur d'Hydro-Québec, une piscine hors terre de 24 pieds de diamètre, chauffée à 24 degrés Celsius, 81 Fahrenheit, avec une thermopompe, sans toile solaire et dotée d'une pompe standard à haute vitesse, consomme environ 7109 kWh par été pour une facture de 718 $. Une grande piscine creusée, 18 pieds sur 36 pieds, 11335 kWh, 1145 $. La piscine n'a absolument rien d'écologique. C'est un luxe bien agréable, mais ça a un grand coût, bien au-delà de son coût d'installation, souligne Emmanuel Cosgrove, cofondateur et directeur général d'Éco-Habitation. Curieux de savoir combien vous coûte votre piscine en électricité? Hydro-Québec propose à ses clients un outil de mesure de la performance qui permet d'estimer la consommation énergétique de leur piscine, un calcul fait en fonction des mois d'utilisation. Pomper la chaleur ambiante. Au Québec, les propriétaires de piscines ont un grand avantage au chapitre de l'empreinte carbone. En été, l'entièreté de l'électricité produite par Hydro-Québec est de sources renouvelables. Ainsi, opter pour une thermopompe plutôt qu'un chauffe-eau au gaz naturel est payant sur le plan de la réduction des gaz à effet de serre. Plus encore, comme pour l'air ambiant, une thermopompe chauffe l'eau plus efficacement qu'un simple chauffe-eau électrique. Le chauffe-eau thermopompe est d'une efficacité assez exceptionnelle puisqu'il pompe la chaleur dans l'air extérieur en plein été. Note Emmanuel Cosgrove. L'efficacité d'une thermopompe se mesure par son coefficient de performance, COP. Un COP de 5 signifie que l'appareil produit 5 fois plus de chaleur qu'il n'utilise d'énergie. Plus cette valeur est élevée, plus l'efficacité énergétique est grande. Une thermopompe peut faire économiser jusqu'à 75 % sur les coûts de chauffage de l'eau, indique Hydro-Québec sur son site Internet. Abaisser le point de consigne de quelques degrés rime aussi avec économie. Malgré le coût de l'appareil, entre 1 500 et 3 000 $, la thermopompe ne fait toutefois pas partie de la liste des appareils admissibles à une aide financière d'Hydro-Québec par l'entremise du programme Logiver. Bonjour soleil! Encore plus abordable que l'électricité, l'énergie solaire, voire le simplissime tuyau noir installé en serpentin sur le terrain ou sur la toiture du cabanon, est le chouchou des cohabitations. Pour plus d'efficacité, on peut se tourner vers des capteurs solaires. C'est un système assez simple, mais très efficace, affirme Geneviève Bourgeois, directrice générale de la division canadienne de Techno Solis, une entreprise familiale de Longueuil qui fabrique et installe des panneaux solaires depuis 1976. Par temps ensoleillé, ce système permet de réchauffer l'eau de 1 degré Fahrenheit à l'heure, expose-t-elle. L'entreprise installe des capteurs solaires sur le toit de la maison. Acheminée par la pompe du système de filtration, l'eau y circule et se réchauffe avant d'être acheminée vers la piscine. Silencieux, le chauffe-eau solaire se vend environ 3 500 pour une piscine hors terre de 21 pieds. Il peut être installé en biénergie pour diminuer l'apport d'une thermopompe ou de façon totalement indépendante, et cela même dans les régions situées plus au nord, assure Geneviève Bourgeois. Réduire les pertes. Comme pour l'intérieur d'une maison, l'une des mesures importantes en efficacité énergétique est la réduction des pertes de chaleur. Il y a énormément de parallèles à faire avec nos enseignements sur les maisons passives, souligne Emmanuel Cosgrove. Avec un design passif, l'idée est de laisser la nature s'occuper de ta piscine. Ce travail commence dès la conception, par l'isolation des parois de la piscine, si elle est creusée, le choix de l'emplacement, idéalement en plein soleil, et celui de la couleur, une piscine foncée, absorbera davantage la chaleur. Une autre arme efficace contre les pertes de chaleur est la toile solaire. La toile solaire limite beaucoup l'évaporation de l'eau qui est la plus grande source de déperdition thermique, souligne Emmanuel Cosgrove. Selon Hydro-Québec, une toile solaire peut faire économiser jusqu'à 45 % sur les coûts de chauffage de l'eau. Pour un plongeon encore plus écolo. En plus du chauffage, plusieurs décisions peuvent avoir un impact sur l'éco-responsabilité de votre baignade. Parmi elles, l'installation d'un minuteur pour limiter le fonctionnement du système de filtration pendant 6 à 12 heures, l'achat d'une pompe programmée à vitesse variable, admissible à une subvention d'Hydro-Québec, le choix d'une piscine durable, ainsi que l'adoption de l'ionisation, de l'ozonation ou du réacteur UV comme système de traitement de l'eau. Néanmoins, puisque la piscine la plus écologique est celle qui n'existe pas, les piscines municipales remportent la palme en matière de saucette éco-responsable. C'était chauffer sa piscine sans réchauffer la planète. Un texte de Valérie Simard, paru le 4 juillet 2025 dans La Presse.
Le couvercle sur la marmite. Un texte de José Bouchard, paru le 31 juillet 2025 dans Le Devoir. La récente volte-face de la ministre de la Famille, Suzanne Roy, dans le dossier de l'application de la mesure ayant pour impact de retirer des enfants d'immigrants des CPE, semble avoir soulagé de nombreux parents et travailleurs des services de garde, mais, détrompons-nous, on a seulement posé un couvercle sur la marmite. Devant le tollé généralisé et malgré l'appui senti du cabinet du premier ministre Legault dans sa déclaration sur le réseau social X, un rappel au service de garde a été fait et il doit être respecté, point final. La ministre Roy s'est pressée d'agir pour ne pas vivre ce que son collègue de l'éducation a subi lors de l'annonce de ses compressions budgétaires. Bien que la société civile et l'opposition officielle aient exprimé un immense soupir de soulagement compte tenu du caractère subi et inhumain de la directive ministérielle, rien n'est gagné. Les parents immigrants concernés demeurent dans le néant. Qu'adviendra-t-il de l'analyse de leur dossier? La lourde conséquence pour un parent de devoir quitter son emploi se dessine comme une épée de Damoclès. La perte d'une période importante d'intégration à leur nouvelle communauté d'appartenance pour les petits demeure une menace certaine. Le stress inhérent à l'attente de la décision finale s'avère bien réel, puisqu'aucune perspective de temps de réponse n'a été évoquée. Les conséquences d'un manque de planification. Enchevêtrée dans son besoin de redéfinir le nationalisme, la Coalition Avenir Québec, en réaction aux orientations du gouvernement Trudeau, à tort ou à raison selon les points de vue, a résolument opté pour une diminution du taux d'immigration. En soi, la position est amplement défendable. Au fil des dernières années est apparue une réalité qui a sans doute motivé cette orientation, la multiplication des problèmes vécus pour absorber ces arrivées dans un court laps de temps. Et oui, une personne immigrante est plus qu'un travailleur. L'économiste Pierre Fortin a largement démontré les impacts d'une expansion accélérée de l'immigration, dont celui d'une forte hausse des demandes de services publics, dans un contexte où la majorité des nouveaux arrivants sont invités à combler une pénurie de main-d'œuvre. C'est le parfait exemple du cercle vicieux. Et pourtant, pour avoir siégé à la Commission des partenaires du marché du travail à titre de présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec de 2009 à 2017, je confirme que la pénurie et la rareté de main-d'œuvre, deux concepts distincts, étaient à l'ordre du jour. Les milieux des affaires, syndicales, communautaires, de l'éducation et de l'enseignement supérieur étaient unanimes sur le fait que le gouvernement du Québec devait adopter une kyrielle de mesures dans la préparation de ce rendez-vous avec le vieillissement de la population, le faible taux de natalité et le développement d'une société du savoir. Nos colloques et congrès respectifs se sont penchés sur ces questions avec des experts. Nous avons tous, à notre mesure et selon nos capacités financières, élaboré des projets pour avancer vers des solutions. Mais le tsunami de la pénurie de main-d'œuvre a surgi et, soyons honnêtes, la recherche de solutions s'est faite sous les gouvernements des partis libérales, péquistes et caquistes depuis 2018. Devant ce défi, devenu projet de société par l'ouverture à d'autres cultures munies des compétences essentielles au maintien de notre productivité et de notre développement économique, nous avons oublié de planifier les besoins en infrastructures, notamment en matière de services de garde, de santé, d'éducation et de transport. Quelle bourde! Le constat de l'économiste Fortin fait réfléchir. Si le Québec n'avait pas mis en route le recrutement massif de travailleurs et d'étudiants étrangers, qu'aurait-il pu faire pour pallier la pénurie de main-d'œuvre? La réponse ne fuse pas et, puisque nous nageons dans le problème, il m'apparaît essentiel de réfléchir à notre niveau de considération de ceux qui ont parfois tout quitté pour nous venir en aide, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Depuis 2018, en tant que directrice générale de l'organisme d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes Porte ouverte sur le lac et conseillère pédagogique chargée de projet au cégep de Saint-Félicien, je ne peux pas être plus près de la réalité de familles qui sont vues chez nous comme des partenaires du maintien de nos acquis, mais aussi comme de nouveaux citoyens nous invitant à un apprivoisement mutuel. Somme toute, le point sur lequel je veux insister, c'est la dimension humaine de l'accueil de toute personne immigrante. Comme collectivité, avons-nous vu dans la solution du recrutement de main-d'œuvre étrangère uniquement des travailleurs? Si tel est le cas, cette approche facilite aisément le discours du renvoi sans réserve. Si c'est faux, nous avons le devoir d'être à la hauteur de la nation dont nous nous réclamons en toute équité. Le cas des enfants d'immigrants dans les CPE nous rappelle la complexité du processus d'accueil et d'intégration et le respect de nos valeurs sociétales, de nos lois, de nos politiques, etc. La qualité des acteurs de la société d'accueil, jumelée aux efforts d'intégration des nouveaux arrivants, fait foi de leur réussite et de la nôtre. Évitons de faire sauter le couvercle de la marmite. Voyons les nouveaux arrivants comme des personnes à part entière qui méritent que l'on s'active à la mise en place, voire au financement des solutions qui assureront la pérennité d'un Québec en pleine transformation. C'était « Le couvercle sur la marmite », un texte de José Bouchard, paru le 31 juillet 2025 dans Le Devoir.
Le numérique, une bombe climatique? Un texte de François-William Croteau, paru le 9 juillet 2025 dans Le Devoir. Vous avez sûrement vu la publicité d'Apple vantant les mérites de son iPhone. On nous dit qu'il n'est plus nécessaire de trier ses photos ou de faire son ménage numérique. Tout reste entreposé sans fin. Magique, n'est-ce pas? Cette promesse repose sur l'info-nuagique, qui est devenue la norme dans presque toutes les solutions numériques. Bien sûr, cette technologie offre un alléchant trio rassemblant efficacité, portabilité et sécurité. Mais cette magie apparente a un coût bien réel, celui de l'impact climatique de tous ces serveurs qui conservent nos données à l'infini. Vous pensez peut-être que j'exagère? Jetons d'abord un œil au fait. Chaque courriel que vous envoyez génère entre 0,3 et 4 grammes de CO2 selon son origine, sa durée de conservation et d'autres variables. Ajoutez-y une pièce jointe d'un mégaoctet ou plus et ce chiffre pourra grimper à 50 grammes, l'équivalent de 5 ampoules d'ailes allumées entre 5 et 10 heures. Avec les transferts, les réponses et l'entreposage, on comprend que cela fait beaucoup de gaz à effet de serre, GES, surtout quand on pense au nombre astronomique de courriels envoyés chaque jour. En moyenne, la seule gestion courante des courriels d'un travailleur sur un an équivaut à 2 allers-retours Montréal-Québec en voiture. Mais qu'est-ce qui pollue le plus dans le numérique? 3 grandes sources. La fabrication et l'utilisation des appareils, responsables d'environ 70% des émissions, les centres de données, environ 14%, et les infrastructures réseau, autour de 16%. À elles seules, ces 3 composantes génèrent l'essentiel de l'empreinte carbone du secteur. Une étude de l'Agence de la transition écologique, ADEME, et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, ARCEP, mise à jour en 2024, estime que l'empreinte carbone du numérique en France atteint 4,4% des émissions nationales, un chiffre semblable à la moyenne mondiale. À titre de comparaison, c'est déjà davantage que l'empreinte de l'aviation civile, et cette part augmente chaque année. Toujours selon l'étude ADEME-ARCEP, les émissions de GES liées au numérique devraient augmenter de 45% d'ici 2030, et cela selon des projections établies avant même l'explosion récente de l'intelligence artificielle IA générative. Comme pour les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, les prévisions, même prudentes, tendent à sous-estimer l'ampleur réelle de la croissance. À chaque itération, la courbe des émissions s'avère plus abrupte que prévu. Les géants du numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les GAFAM, avaient pris des engagements pour réduire leur empreinte carbone en misant sur de meilleures pratiques. Mais l'explosion de l'IA a changé la donne. Par exemple, les émissions de CO2 de Google ont bondi de 13% entre 2023 et 2024, principalement à cause de la forte hausse de la consommation énergétique des centres de données qui alimentent les outils d'IA. Et ce n'est qu'un début. Le pire reste à venir. Plusieurs demeurent dans le camp des techno-optimistes, convaincus que le numérique finira par nous sauver de la crise climatique. Pourtant, l'étude ADEME-ARCEP montre une tout autre réalité. En 2050, si aucune action concrète n'est mise en place et que l'on continue de croire que l'innovation suffira, les émissions de GES du secteur numérique pourraient avoir bondi de 372%. Même dans un scénario misant sur des technologies vertes, la hausse atteindrait 183%. Aucun autre secteur ne suit une telle trajectoire. Dans tous les cas, l'étude ADEME-ARCEP est sans équivoque. Seule la frugalité numérique peut inverser la tendance. La solution passe par une approche plus sobre du numérique. Selon l'étude ADEME-ARCEP, des pratiques éco-responsables intégrées dès la conception des outils pourraient réduire jusqu'à 45% les émissions de GES du secteur. Cela suppose d'éco-concevoir les logiciels, de prolonger la vie des appareils, de limiter l'entreposage inutile et de réduire les usages énergivores, comme la vidéo en continu. Ce virage vers la sobriété est indispensable si l'on veut que le numérique contribue réellement à la lutte contre les changements climatiques. Que faire alors? Commencez par des gestes concrets. Videz vos courriels inutiles. Supprimez les dizaines de photos floues accumulées sur votre iPhone. Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus. Chaque fichier superflu, chaque vidéo regardée en boucle sur TikTok ou YouTube alimente les centres de données des GAFAM. Plus vous consommez, plus ils s'enrichissent, et plus ils polluent, plus vous polluez. En adoptant des réflexes numériques plus sobres, comme désactiver la lecture automatique des vidéos, éviter les envois de pièces jointes volumineuses ou opter pour des appareils durables, vous réduisez directement votre empreinte carbone numérique. Le pouvoir de changer les choses commence par vos habitudes les plus banales. Alors, si vous trouviez ça drôle de générer votre énième starter pack avec une IA, rappelez-vous qu'il n'y a rien de drôle à contribuer à la hausse des GES et à l'aggravation des crises climatiques. La prochaine fois que l'envie de produire du contenu numérique superflu vous prendra, pensez aux gens qui ont tout perdu en août 2024 lors de l'ouragan Debby, dont les restes ont fait des ravages jusqu'au Québec. Eux, ils ne l'ont pas trouvé drôle. C'était « Le numérique, une bombe climatique », un texte de François-William Croteau paru le 9 juillet 2025 dans Le Devoir.